Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode spécial où on va parler d'IA fatigue et de l'IA impact sur les développeurs. Voilà. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Moi, c'est un épisode qui m'intéresse beaucoup parce que on ne peut pas nier qu'il y a une hype autour de l'IA, que les développeurs vont être grands remplacés par l'IA. Mais en même temps, on voit émerger cette fatigue, cette peur déjà chez les développeurs, mais aussi cette excitation et un nouveau, mais vraiment tout nouveau concept qui est cette IA fatigue, et on va la développer. Comment s'en prémunir et est-ce qu'on ne nous a pas survendu en fait un peu le vibe coding? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être justement de tomber dans ce piège un peu court-termiste? On va aborder tout ça et je trouve c'est super super intéressant et on voit émerger plein d'articles et on va justement utiliser tous ces articles-là pour échanger sur cette IA. Je te propose qu'on rentre tout de suite dans le sujet suite à un article premier en fait qui a été peut-être l'initiation, en tout cas le début du sujet, où en fait Anthropic, qui est connu pour justement son LLM et d'avoir sorti les MCP et tout ça, vient en fait avec une étude ou en tout cas un article qui lui relate justement l'étude de chercheurs où ils ont fait en fait des tests et le résultat est plutôt surprenant.
Ouais, non. Alors c'est un article sur le site Anthropic qui le but de cette étude en fait c'est de tester la compréhension et l'apprentissage du code en fait. C'est vraiment basé là-dessus. Donc en utilisant l'IA, est-ce qu'on comprend le code, est-ce qu'on apprend le code, est-ce qu'on progresse en fait au niveau de sa compréhension. Et c'est vraiment le but de cette étude. Donc en gros, je vais résumer un petit peu l'étude. Elle est basée sur 52 ingénieurs logiciels. Donc ils ont pris des ingénieurs qui étaient plutôt de profil junior en majorité, qui faisaient du Python au moins une fois par semaine depuis un petit moment, qui ne connaissaient pas la librairie Trio. Donc c'est une librairie qu'ils vont utiliser en Python. Donc ils se sont bien assurés puisque le test était basé sur la compréhension et l'apprentissage de cette librairie en fait. Voilà. Et ensuite ils ont fait deux groupes randomisés, donc aléatoires. Des personnes sans IA et des personnes avec IA. Donc des personnes qui avaient le choix de pouvoir utiliser l'IA ou pas, et des personnes qui n'avaient vraiment pas le droit d'utiliser l'IA. Donc le système était un système en ligne où on leur, en fait, une sorte de tutoriel autoguidé qui leur permettait de coder des choses et d'apprendre en même temps d'utiliser la librairie Trio. Et à la fin, ils avaient un petit quiz en fait pour voir un peu s'ils avaient compris comment fonctionnait la librairie, etc. S'ils avaient compris comment écrire, débugger, etc. Donc voilà à peu près comment ça se déroule. Et surtout, ils leur ont demandé de travailler le plus vite possible. Tu vois, un petit peu de pression pour. Et surtout, voilà. Ah ouais, j'ai oublié de dire, c'est que ceux qui avaient droit d'utiliser l'IA, ils avaient à tout moment dans la barre du haut. La possibilité de demander à l'IA de coder la fonctionnalité, etc. Voilà.
Donc, et le résultat, quel est le verdict?
Donc, le verdict, c'est que déjà, le groupe avec IA a fini que 2 minutes plus vite l'exercice que les autres. Donc, c'est pas beaucoup plus rapide, déjà, d'une chose. Donc, c'est assez surprenant. On se dit, bon, ça pourrait aller beaucoup plus vite, mais bon, c'est que 2 minutes, donc finalement, c'est pas énorme. Et ensuite, les résultats en moyenne des quiz, en fait, sur le groupe qui a utilisé l'IA, c'est à peu près 50%. Je dis bien, c'est une moyenne, hein, donc 50%. Le plus bas, c'est à peu près 40% de réponses, et je crois que c'est 65% le meilleur. Et ensuite, la moyenne pour ceux qui n'ont pas utilisé l'IA, c'est 67%, donc beaucoup plus élevé, en fait. Donc, on voit déjà que les personnes qui n'ont pas utilisé l'IA, ils ont été obligés de comprendre comment ça fonctionnait, de débugger eux-mêmes, etc. Donc, ils ont une meilleure compréhension, en fait, du fonctionnement global de la librairie.
Et oui.
Voilà. Et ensuite, ils ont donc évidemment, ils les ont filmés, ces personnes. Ils ont regardé un petit peu comment ils procédaient. Ils se sont rendus compte, ils ont eu un résultat surprenant, c'est que plusieurs ont mis jusqu'à 11 minutes pour formuler 15 requêtes, en fait, 15 prompts. Donc, au lieu de coder, ils étaient en train de prompter, tu vois. Donc, ils passaient beaucoup de temps à prompter, finalement. Donc, c'est ce qui explique un peu le peu de temps, en fait, gagné par l'IA. Finalement, ils ont passé du temps à prompter pendant que les autres codaient, en fait.
Ouais, et comme ils étaient obligés de coder, ils étaient obligés de comprendre ce qu'ils faisaient et de vraiment s'apprivoiser, de s'approprier, pardon, la librairie, alors que les autres, en fait, n'ont fait que prompter, et c'est l'agent qui est allé chercher les infos dans la doc et qui a injecté le code, c'est ça ?
Alors justement, au niveau ce qu'ils ont, remarqué, en fait, c'est qu'ils ont divisé le groupe IA en deux groupes. Donc il y avait des personnes qui étaient en full IA, en gros. Ils ont utilisé 100% de l'IA pour coder. Donc en gros, ils ont délégué totalement leur travail à l'IA. Le codage, le débugage et tout ça. Et eux, c'est les personnes qui ont eu le moins bon score au quiz, et c'est ceux qui ont eu 40% au quiz. Donc eux, ils ont carrément rien compris au niveau du code. Ils ont totalement délégué. Donc on voit qu'au final, ils n'ont pas appris grand-chose. Peut-être qu'ils ont eu 40% parce qu'ils ont eu un petit peu de bonne chance au niveau des réponses, mais en gros, ils n'ont rien compris au code. Par contre, ceux qui ont eu deux groupes IA les meilleures notes, donc c'est monté jusqu'à 65% quand même, ceux qui ont eu les meilleures notes, eux, ils ont codé avec l'IA, mais ils ont aussi... Enfin, alors, ils expliquent qu'ils faisaient un petit peu de copier-coller, tu vois. Ils posaient des questions à l'IA, et elle leur donnait des bouts de code, ils copiaient-collaient, donc déjà, ils s'appropriaient le code, en le relisant, en le collant, etc. Et ensuite, ils posaient des questions à l'IA pour essayer de comprendre le code, comment ça fonctionnait, etc. Et donc, ce groupe, tu vois, ils ont utilisé l'IA d'une façon un peu plus intelligente pour comprendre le code, pour apprendre des choses, etc. Et on voit que c'est ce groupe-là qui a eu les meilleures réponses, en fait, dans le groupe IA. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça dépend vraiment de l'usage qu'on a, en fait. Soit tu délègues tout, et là, tu comprends rien, et donc le truc code, et en fait, tu comprends rien, tu es incapable de le lire et de débugger. Soit tu te sers de l'IA pour comprendre et t'aider, en fait.
Ok.
Voilà. Ça met surtout ça en exergue, en fait.
Et toi, qu'est-ce que t'en retiens de cet article-là, et qu'est-ce que ça t'amène au quotidien, peut-être dans ta pratique et dans l'utilisation de Copilot, Cursor, Codex, que sais-je?
Alors moi, moi rien, mais en fait l'article il est intéressant, même s'il est un petit peu biaisé par Anthropic, hein. Et évidemment parce qu'ils ils reviennent dessus, parce qu'ils disent ouais, alors ça met un petit peu ils disent ça met en opposition aux précédentes études qu'on avait, où on disait que ça pouvait faire gagner jusqu'à 80% de temps, etc. Puis là, on voit en fait que finalement, ils n'ont pas été beaucoup plus rapides. Donc, il dit, tu vois, ils sont un peu biaisés, ils essaient de se rattraper aux branches, tu vois. Mais c'est surtout, en fait, l'idée, c'est qu'il faut faire attention, en fait. La morale de l'article, c'est qu'il faut faire attention. Il parle surtout du milieu professionnel, comment on va intégrer l'IA, comment on va l'amener dans l'entreprise et l'utilisation de l'IA dans l'entreprise, en fait. Et pas non plus... en fait, surtout, ils disent surtout attention aux développeurs juniors qui peuvent être tentés de s'appuyer uniquement sur l'IA pour accomplir les tâches le plus rapidement possible, parce que finalement, c'est ce qu'on leur demande en entreprise, hein, d'aller vite, et au détriment, en fait, du développement de leurs compétences et de leur capacité à résoudre des problèmes en cas d'erreur. C'est ça, en fait. Ils mettent surtout ça en avant, que, bah, attention, en entreprise, pousser à utiliser l'IA, suivant le niveau des développeurs, etc., bah, ça peut amener, sur le long terme, un manque de compétences, etc., une perte de compétences, et ça peut devenir assez dangereux, quoi. En cas de problème, plus tard, si tu as vraiment des erreurs au niveau de ton code et qu'ils sont incapables de le réparer, en fait.
Ouais, clairement. Moi, je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, ces modèles-là, en fait, sont des super teachers, quoi. En fait, si tu vois ça comme un super teacher, tu peux lui demander pourquoi tu as utilisé ça, qu'est-ce que c'est, donne-moi la référence de cette API. En fait, si tu t'en sers avec curiosité, et donc c'est là où, même si l'IA, en fait, va nous permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin, plus profond, par contre, il faut qu'il y ait un socle sain, c'est-à-dire de la personne qui l'utilise. En clair, il faut que la personne soit toujours aussi curieuse, et il faut quand même rester lucide sur le fait qu'elle doit comprendre ce que l'IA sort. Si au moment, en fait, où le développeur clique sur valider la suggestion de l'IA sans même comprendre ce que l'IA a fait, c'est fini, en fait. C'est à ce moment-là où ça bascule dans y a une dette qui va être créée parce que l'IA est plus fort que toi. Et donc, si tu fais ça suffisamment de fois, en fait, tu vas rajouter autant de couches de côté un peu black magic, quoi. C'est du vaudou, tu ne sais pas. Et ça me paraît super dangereux, aussi bien pour l'entreprise, mais aussi pour le développeur. Parce que ça va devenir qu'un prompteur. Et c'est juste une question de temps avant qu'on ne comprenne pas tout à fait ce qui se passe. Et on reviendra sur... On a des exemples qui abondent là-dedans, quoi. Donc, c'est quand même triste, mais au final, on nous a peut-être un peu survendu le truc, quoi. Une fois de plus.
C'est clair. Ouais, donc on peut passer, tu vois. Alors, j'ai fait plusieurs recherches, tu vois. Donc, on avait cet article. Et ensuite, il y a pas mal d'études. Donc, j'en ai relevé une, en fait, qui est en draft actuellement. Puisqu'en fait, eux, ils sont vraiment au début de l'étude. Ils ont drafté, ils expliquent comment ils vont procéder. Et surtout, ils relèvent, en fait, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a des benchmarks que sur du court terme. C'est-à-dire qu'on sait, on sait tous que ça fait gagner du temps, que ça peut crasher du code très rapidement, etc. Mais on n'a pas de benchmark d'études, etc. sur le long terme. Et comme on discutait juste avant, là, nous, développeurs, on est vraiment le premier métier qui est confronté à ça, où on utilise intensivement l'IA, vraiment au quotidien. Je vois pas d'autres métiers aujourd'hui qui utilisent autant l'IA que les développeurs. Et d'ailleurs, je me demande si un jour, il y aura d'autres métiers qui vont utiliser, parce que j'ai l'impression qu'ils font que des trucs pour le code pour l'instant. Mais voilà, il y a vraiment un impact sur l'humain, en fait, sur le développeur, parce que voilà, derrière ça, il y a un travailleur, en fait. Et donc, ils vont commencer à mettre en place des études sur le long terme, en fait, pour voir un peu l'impact sur le long terme. Et on en reparlera après, parce que justement, on parle d'IA fatigue, en fait, justement. Et ça revient assez régulièrement. Donc,
Sur le long terme, tu vois, pour rebooker sur les juniors qui ont fait leur test, mais s'ils sont dans une entreprise, aujourd'hui, quelqu'un qui a 10-15 ans de boîte, qui a vu toute la legacy du projet, en fait, il sait pourquoi on a mis ça à tel moment. Si c'est l'IA qui l'a choisi, en fait, et que le junior n'a pas compris, ou même le simple développeur n'a pas compris pourquoi l'IA a fait ce choix-là, c'est une bombe à retardement. Parce que y aura un moment donné le fait que l'IA aura plus de connaissances que l'humain qui a prompté, quoi. Et donc, c'est juste une question de temps avant que vraiment le projet, en fait, soit totalement IA-driven, mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui ait la connaissance de la raison pour laquelle on a mis ça en place. Parce qu'aujourd'hui, tous les seniors ou tous les anciens, ils vont avoir quasiment la réponse à tout parce qu'ils ont fait des choix technologiques par rapport à des équipes, par rapport à des contraintes. Mais en fait, c'est un peu l'héritage, quoi. C'est tout l'héritage. Sauf que l'IA, peut-être, a fait un micro mauvais choix. Et si on compile et on compile dessus, sur le long terme, ça peut être juste super dangereux, quoi. Parce qu'il n'y aura plus cette transmission et ce choix tactique, en fait, qui sera fait. Et donc... Mais c'est comme dans la vie de tous les jours, l'esprit critique, c'est hyper, hyper important, quoi, d'essayer de remettre en cause. On l'a déjà dit, mais je pense que la promesse du vibe coding en 3 clics, 3 prompts, on a un SaaS terminé. Je n'y crois pas du tout, du tout, du tout. Et aujourd'hui, les meilleurs vibe codeurs, comme on pourrait dire, ce sont les développeurs. Parce qu'ils maîtrisent la techno, ils savent parler à une IA, ou en tout cas, ils ont appris à parler à une IA. Ils l'ont appris à la driver, à interagir avec elle. Et c'est peut-être justement...
À la challenger aussi. À la challenger.
Exactement, à la challenger. Et c'est peut-être justement ça, en fait, qui fait émerger, en fait, une sorte de nouveau job, un peu. Et le développeur qui, avant, était vraiment le crafter, l'artisan qui venait, en fait, mettre brique par brique, là, il devient un petit peu plus, non plus maçon ou constructeur, mais il devient un peu maître d'œuvre parce que c'est l'IA qui va exécuter ou qui va pondre son code. Et c'est peut-être là, en fait, l'émergence de cette IA fatigue, quoi. Parce que le job évolue.
Et en plus, on sait très bien, de toute façon, on dit ça, mais ça reste de toute façon très dangereux parce qu'on a beaucoup la culture du résultat et résultat rapide. Et forcément, on va mettre la pression aux développeurs. Et quand c'est des juniors, sur le court terme, ça va marcher. Mais on sait très bien que sur le long terme, on aura un problème à un moment donné. Donc là, c'est un article sur l'IA fatigue. Comment la reconnaître? Tu vois, on est déjà dans des trucs psychologiques un peu.
bien sûr.
Donc, c'est un article qui dit qu'il y a déjà pas mal de... C'est juste au début, je crois, de l'article. Il donne un pourcentage, tu vois, ils disent 45% de burn-out par rapport... Tu vois, ils disent...
Sur
les gens
devs.
Qui utilisent l'IA ouais. sont à 45% plus haut en burn-out comparé à ceux qui ne l'utilisent pas, rarement, en fait. Donc, ils disent déjà, il y a vraiment un phénomène IA fatigue qui arrive. Donc les signes émotionnels et psychologiques, c'est le sentiment d'être submergé par la complexité des systèmes IA, frustration face à l'introduction constante de nouveaux outils. Donc c'est vrai qu'on a tout le temps des trucs qui sortent, tu vois, on en parle, d'ailleurs nous on en parle tout le temps, tu vois, les skills, ouais. tout ça, ça arrive toutes les semaines, les nouveaux trucs. Anxiété concernant la sécurité de l'emploi, donc ça c'est aussi un truc important, tu vois, de l'automatisation. Donc les gens ont l'impression que ouais, je bosse avec l'IA, mais ça se trouve demain elle va me remplacer. Donc là c'est vraiment des signes qui vont d'inquiétude.
Ouais, c'est du stress, quoi.
Signes clairement. Comportementaux, c'est résistance au déploiement des nouveaux outils IA, donc on commence à en avoir marre, on refuse. Temps consacré à l'apprentissage des outils plutôt qu'au travail, donc tu passes ton temps à configurer tout ça, machin, à tester des nouveaux outils.
Ouais, et en plus, ce qui est super difficile, c'est que t'as la peur de rater le train, quoi, parce que tu vas passer du temps à implémenter, à monter en compétences sur ces techniques, sur comment tu vas écrire, comment tu vas prompter avec tes fichiers Markdown, tu vas faire tes PRD, tu vas faire tes tax lists, tu vas faire du spec driven, tu vas faire tout ça. et en fait, tu vas prendre du temps pour monter en compétences, mais au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines ou parfois un mois, non mais en fait ça c'est tellement 2025, c'est tellement vieux, tout c'est fini quoi, on fait plus comme ça maintenant. Et là en fait tu dis mais c'est un cycle infernal et ça met encore plus de pression de charge mentale sur le besoin de monter en compétence. Et donc c'est une sorte de pouce tout le temps quoi, et clairement.
Ouais. Donc, de toute façon, ça revient, tu vois, on avait parlé de JS fatigue à une époque parce qu'il y avait tout le temps des nouveaux frameworks qui sortaient, tout ça. Il fallait toujours changer de façon de coder. On en avait marre. Là, on est un peu dans le même style. Donc, je passe les signes physiques, hein, maux de tête après l'utilisation d'interface IA, troubles du sommeil, épuisement mental dû à l'adaptation constante. Voilà, c'est un peu les signes que tu as, l'IA fatigue. Donc, en fait, ils disent la vitesse à laquelle les outils et fonctionnalités d'IA sont introduits dépasse largement la capacité d'adaptation de la plupart des gens. En fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, nous, avec notre cerveau, de s'adapter aussi vite. En fait, ça change trop, en fait, tout le temps. Ouais. Donc, faut faire attention à ça. Et donc, ils donnent des étapes à mettre en place.
Hyper intéressant, mais juste pour rebondir ce que tu viens de dire, en fait, où on a tous connu notre grand-mère, en fait, qui comprenait pas Internet et tout ça, et dit ça va trop vite, quoi. Elle est pas montée dans le train, elle a pas vu. Certaines personnes âgées ont su, en fait, prendre ce train d'Internet, mais t'imagines que même si nous, en fait, développeurs, on nourrit une sorte d'anxiété ou en tout cas on considère que ça va trop vite, t'imagines pour les personnes qui sont non-dev, mais c'est un mirage pour eux, c'est un truc mais totalement qui va tellement tellement vite, ils sont pas en capacité de comprendre. Donc enfin j'arrive à un point où tu vois, je me dis que si nous mêmes développeurs on considère que ça va déjà très très vite, t'imagines le commun des mortels qui ne connaît pas le code, ils sont à des années-lumière de comprendre ce qui se passe, en fait. C'est ouf.
Alors, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, on est vraiment dans une bulle. Nous, devs, on est vraiment dans une bulle et il faut bien prendre conscience qu'il y a énormément de gens qui... De quoi tu parles, quoi. À part ChatGPT, rien n'existe, en fait. Claude Code, tout ça, machin, ça n'existe pas, en fait. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'anxiété au niveau des personnes lambda. Mais bon, ça arrive petit à petit. Hein. Cet article-là ne concerne pas que les développeurs, c'est un peu général. Donc, il donne des étapes à mettre en place. c'est déjà d'identifier où l'IA vous aide vraiment et où elle est efficace. Tu vois, de ne pas l'utiliser pour tout, mais pour les tâches sur lesquelles elle est très très bonne. Donc, se concentrer sur des applications concrètes qui résolvent des problèmes réels, tu vois. Donc, voilà. Et exprimer aussi, alors ça c'est important pour les développeurs et autres, exprimer les besoins de formation et expliquer pourquoi utiliser les outils qui nous sont imposés. C'est-à-dire dans des boîtes, parfois, on peut nous imposer des outils et nous dire bah, « maintenant, tu vas utiliser l'IA, tu n'as pas le choix ». Il faut dire bah, « pourquoi je dois l'utiliser ?» et demander surtout des formations.
Ouais. Après ça, ça revient un petit peu à cet accompagnement au changement. Et nous, on en fait partie, mais peut-être qu'on a des capacités ou une plasticité mentale à utiliser des nouveaux outils, ou peut-être qu'on est complètement hypé, je ne sais pas. Mais ça fait partie aussi des choses qu'on a intégrées en tant que développeur, que hier, on faisait comme ça, aujourd'hui, on fait autrement, parce qu'il y a une autre manière de faire qui est plus rapide, qui amène un avantage, des inconvénients. En tout cas, on a déjà intégré que potentiellement, les outils vont évoluer. Peut-être que là, ça va tellement vite que c'est usant de changer. Et on sait très bien que si on nous impose un outil et qu'on n'accompagne pas qu'il n'y a aucun accompagnement sur l'utilisation de ces nouveaux outils, c'est le désastre assuré. Et pour le coup, nous, on le voit, je pense que tu l'as déjà vu avec des outils qui ont été mis en place, qui ont été imposés aux salariés. Et au final, on se rend compte que les salariés ne l'utilisent pas et ils continuent à détourner les anciens outils parce que ils n'ont pas compris le bénéfice du nouvel outil et donc ils ne l'utilisent pas. Et là, quand tu retournes vers la boîte et le boss et tu vois les taux d'utilisation, le mec, il est dégoûté parce qu'il a lâché beaucoup d'argent pour faire son logiciel et pour se rendre compte qu'au final, il ne s'est pas utilisé. Et donc, c'est exactement la même chose avec l'IA. Si on ne montre pas les bénéfices, on ne va pas l'utiliser. C'est vrai. Mais à l'inverse, trop de bénéfices, en fait, ça devient anxiogène et un peu fourre-tout. Compliqué, quoi. Compliqué à trouver le juste milieu.
C'est clair, non, mais tu as raison, parce qu'en fait, ils se rendent compte. Il y a pas mal d'articles qui parlent de ça. Notamment, tu vois, de Copilot, qui a été plus ou moins imposé par Microsoft. Et là, ils ont fait un petit peu un retour en arrière. Et ils se rendent compte qu'ils ont que, je crois, c'est 13% de personnes qui l'utilisent vraiment, en fait. Ce qui représente quand même, à l'image de Microsoft, des millions de personnes. Hein, mais c'est plutôt, entre guillemets, un échec. Comme quoi, si tu imposes des outils, c'est pas forcément utilisé. Puis utiliser pourquoi ? Poser juste corriger des emails et tout ça. Bon, après, c'est très bien hein, de corriger des emails tout ça avant de les envoyer, mais c'est 10% de l'utilisation de l'outil, quoi. Donc oui, c'est pas facile d'imposer. Après, nous, je pense que les développeurs, on a déjà une faculté d'adaptation assez importante du fait que nos outils, nos langages changent constamment. En fait.
Ouais, clairement.
Si on prend un épisode de 2020 du podcast, on parlait de techno qui aujourd'hui n'existe même plus. Et aujourd'hui, on utilise des trucs qui n'existaient pas il y a deux ans. Quoi. Donc,
clairement.
Ça change tout le temps, en fait. Donc déjà, on s'adapte très, très vite.
Mais malgré ça, en fait, là, tu illustres le propos sur justement, en fait, l'impact que ça a d'utiliser l'IA. Et je trouve que ce tweet utilise, là, il y a deux quotes, voilà, deux phrases qui me parlent vraiment. Il dit, aujourd'hui, l'IA peut produire 1000 lignes en quelques secondes. Le bottleneck, c'est plus l'écriture, c'est la clarté. Et en fait, pour moi, c'est hyper important justement de garder cette lucidité et quelle est la valeur ajoutée. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est mieux? Ou c'est juste, il y a plus de code, quoi. Tu vois, il y a plus de code et plus, ça amène encore plus d'infos. Et c'est un peu cette obésité d'informations, en fait, qui amène une sursaturation. Et au final, à la fin, c'est contre-productif, quoi. Et je pense qu'on peut facilement tomber dans le too much là-dedans, quoi.
Non, c'est super intéressant. Ça, c'est vraiment un tweet, je suis tombé par hasard dessus, tu vois. Il parle d'IA fatigue, il explique que voilà, c'est une fatigue cognitive, en fait, par rapport à cette nouvelle façon de travailler. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est en train d'émerger, tu vois, de cette fameuse IA fatigue. Donc, cette adaptation qui est quand même pas si évidente en fait, parce que, enfin, on le verra sur l'article suivant, mais c'est voilà, c'est une personne qui a fait un mini burn-out en 2025, fin 2025, suite à différentes mésaventures, et donc il donne voilà les pièges dans lesquels il faut pas tomber et comment il a un peu résolu, il a mis des choses en place en fait.
Et ce qui est super donc, intéressant, c'est que il dit que ouais. l'IA fatigue justement, elle est réelle, mais que personne n'en parle parce que justement on est complètement omnibulé par la hype du nouveau modèle, de la nouvelle manière de faire, de la nouvelle librairie qui va nous permettre de faire plus rapide. Et au final, lui, il a vraiment, on va dire, sombré quoi.
Ouais, oui, carrément. Donc il s'appelle Sidankar. Je sais pas s'il est indien ou je sais pas, mais on s'en fout. C'est un développeur qui fait des outils pour l'IA, donc c'est pas un mec qui utilise l'IA, c'est carrément un mec qui maintient des librairies IA, des agents, des trucs de contexte IA, etc. Donc il est vraiment en plein dedans et il l'utilise au quotidien. Donc en fait, il commence son truc par vous utilisez l'IA pour être plus productif. Alors pourquoi êtes-vous plus épuisé que jamais en fait? En fait, voilà. En gros, on est censé aller plus vite, donc avoir plus de temps, et en fait, on travaille encore plus. Et dire, j'ai livré plus de code le trimestre dernier que durant n'importe quel autre trimestre de ma carrière. Je me suis également senti plus épuisé que jamais. Voilà.
Alors que c'est l'IA qui l'a sorti ce code, c'est pas lui.
C'est ça, et c'est ça
je
le problème.
Être un peu méchant, quoi. Mais ouais. Et ouais.
Donc, j'ai un peu fait des notes, tout ça. Donc, l'IA, il dit l'IA accélère réellement les tâches. Une tâche qui prenait 3 heures prend désormais 45 minutes. Tout est plus rapide. Mais mes journées sont devenues plus difficiles, pas plus faciles, plus difficiles, en fait. Donc, ce qu'il explique, en fait, c'est que les tâches, elles prennent moins de temps. Et le problème, c'est qu'on n'en fait pas moins, c'est qu'on en fait plus, en fait. C'est-à-dire que, en fait, il dit votre responsable voit que vous livrez plus vite, donc ses attentes s'ajustent. C'est-à-dire que bah, si maintenant tu mets une heure pour faire une fonctionnalité qui te mettait la journée, bah, tu vas en faire 6 dans la journée, en fait.
Bah oui.
Donc, attention à ça. Et donc, en fait, en gros, il dit, avant l'IA, sur une journée, tu voulais faire une fonctionnalité, tu avais un problème, donc tu réfléchissais, tu mettais ça sur papier, tu réfléchissais des fois sous la douche, tu allais te promener, tout ça, pour essayer de régler le problème, tu vois, les idées. Et puis voilà, tu avais vraiment une journée pour réfléchir et tout ça. Maintenant, en fait, il dit, dans la journée, c'est plusieurs problèmes à la fois, c'est 6 problèmes différents par jour. Du coup, ça, il faut jongler entre les 6 problèmes. Le cerveau, il n'arrive plus. Et du coup, l'IA, elle se fatigue jamais. Tu vois, le dessin, il est excellent parce qu'en fait, l'IA crache du code et là, toi, tu dois l'examiner totalement. Donc en fait, l'IA ne fatigue jamais. Mais par contre, moi, je me fatigue. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, l'IA réduit les coûts de production, mais augmente la coordination, l'examen, la prise de décision. En fait, tu as beaucoup plus de... En fait, oui, tu codes pas, mais tu dois prendre des décisions, tu dois examiner le code, etc. Donc, ça, tout ça fatigue, en fait.
Et pour le coup, en fait, moi, je suis intimement convaincu que maintenant, le job du développeur, il est devenu plus le job d'un lead dev, en fait, qui a, avec une équipe, où en fait, quand il y a 5-6 équipes, développeur en fait, bah tu vas avoir, tu les remplaces par des agents et donc maintenant on a des agents juniors ou des devs juniors qui sont remplacés par des agents et qui vont en fait juniors ou pas d'ailleurs, je pense que c'est faux de dire junior parce que les agents sont pas des juniors, mais en tout cas tu vas avoir comme si tu avais une équipe, c'est des agents et tous ces agents-là en fait vont te livrer du code et toi il va falloir que tu le lises, il va falloir que tu vérifies et donc en fait le job aujourd'hui n'est plus de créer mais de vérifier que c'est bon quoi. Et donc comme tu l'as dit et comme il l'exprime de manière très très bien, c'est jongler d'un problème ou d'une feature à l'autre. Prend du temps en fait de switcher le contexte, de me remettre dans le contexte de la feature que je lui ai envoyée et ça en fait ça amène beaucoup plus de changements parce que avant on faisait et là maintenant on doit juste pas juste le terme n'est pas approprié mais on doit contrôler le travail et donc rien que l'essence même du métier a changé, quoi. Ça change. C'est et donc, ça. La personne qui a été embauchée pour coder, maintenant, elle est embauchée pour faire de la review. c'est pas le même job.
Bah justement, tu vois, j'ai une cote sur ce qu'il dit. Il dit aujourd'hui, je suis devenu un relecteur, un juge, un contrôleur qualité sur une chaîne de montage qui ne s'arrête jamais, en fait.
Exactement. Exactement.
Et donc, il dit l'ironie de coder avec l'IA, il dit c'est que la relecture du code, elle est beaucoup plus attentive. Alors, lui, il part du principe que chaque ligne est suspecte. En fait, parce qu'il dit relire un collègue. En gros, dans une team de dev, il dit ton collègue, tu connais sa façon de coder, tu sais à peu près comment il code et tu vas survoler le truc et tu vas aller voir où tu sais à peu près, où des fois il est un peu moins bon, tout ça. Donc, ça va vite. Par contre, il dit quand tu relis l'IA, il dit chaque ligne est suspecte. Donc, il faut relire chaque ligne, etc. Donc, c'est intéressant. Et donc, après, voilà, il vient sur les différents pièges, en fait, sur lesquels il faut pas tomber. Donc il dit déjà déterminisme, c'est super intéressant. Ce qu'il relève, c'est qu'en fait, il dit pour le même prompt, le lundi elle va te sortir un truc, le vendredi elle va te sortir une chose totalement différente. Donc une façon de coder différente, une fonction codée différemment, etc. Donc en fait, il n'y a pas d'homogénéité.
Ouais, de constance.
Il n'y a pas de constance en fait sur ce qu'elle va te sortir. Donc déjà, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que sur un projet, sur un même projet, tu vas avoir des fonctionnalités qui sont codées différemment. Donc en fait, ton projet va être un peu bizarre en fait, au bout d'un moment. Donc et ça, il ne comprenait pas, tu vois, il a fait du versionning de prompt et tout, il essayait vraiment de trouver pourquoi ça faisait ça. Mais en fait, non, c'est juste l'IA, elle fonctionne comme ça, en fait. Elle te sort après, un truc un jour et le lendemain, elle te sort autre chose.
Après, quand on connaît le fonctionnement d'un modèle, bah oui, en fait, c'est que des probabilités, tout. Donc, ça ne te sortira jamais mot pour mot, la même chose. C'est impossible. Donc, ça se tient, mais c'est sûr que quand nous, développeurs, on cherche, ou en tout cas, projet de manière globale, on cherche une espèce de constance et de régularité et de conformité, bah, ça, c'est aux antipodes de ce qu'on va chercher.
C'est impossible à avoir, en fait.
Ouais.
Après, il parle du FOMO. Donc, attention de ne pas tomber dans le piège de vouloir tout tester. Ça, c'est très important.
FOMO,
on a déjà parlé
fear
avant.
Of missing out, la peur de rater le train, de pas monter de rater le truc important.
Voilà, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, surtout avec l'IA dernièrement, et des outils sortent quasiment tous les jours, et en fait, c'est impossible de tout tester. Donc, il faut à un moment donné se dire, je ne peux pas tout tester. Voilà, on testera plus tard, c'est pas grave, on verra ce qui émerge, et puis voilà, parce qu'en fait, c'est impossible. Et ça, il faut vraiment sortir de ça. Donc ça, il parle de ça, attention à ça.
Après, il parle aussi de la spin. Ouais. Attends, moi, je veux juste rebondir sur le FOMO, parce que il faut pas oublier que toutes ces grosses boîtes ont des fonds, pas illimités, mais ont beaucoup d'argent. Et donc, investissent un marketing de folie travers des développeurs advocates, à travers des chaînes YouTube, à travers plein de gens pour justement, en fait, faire monter la sauce.
Nous mettre la pression.
Mais, mais c'est en fait, ils viennent en fait rentrer parce qu'ils savent très bien, ça fait des années que ça existe. Microsoft, on se rappelle de Steve Ballmer qui disait développeur, 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 développeur. Et donc en fait, sur l'adoption d'un outil, ça passe par les développeurs. Donc ils investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour amadouer le chaland, on va dire. Et donc, pour nous faire rentrer dans leur spirale, de dire non, mais attendez, ça, c'est un outil révolutionnaire. Et donc, marketing, 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 influenceur, influenceur, marketing. Et, et à la fin, en fait, nous, on est persuadés que si on n'utilise pas Cursor ou si on n'utilise pas Cloud Code, ben, en fait, on est des quiches, on est mort, on va plus arriver. Et tout, attention quoi, non,
ah non,
gardez votre lucidité, et c'est là où c'est compliqué parce qu'il faut pas non plus être complètement réfractaire parce que sinon tu bascules de l'autre côté en mode moi je veux zéro IA, tout. Toute la difficulté est là de trouver justement le juste milieu, de trouver qu'est-ce qui est l'outil qui va me permettre d'être plus rapide, d'être meilleur dans mon code sans pour autant rentrer dans la boîte noire et de tout déléguer et d'abîmer ma santé mentale, quoi, tout simplement.
Non, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Ouais, c'est vraiment, on a une pression vraiment très forte sur... Ouais, c'est clair, tu as l'impression, si tu n'utilises pas Cloud Code ou quoi, tu es complètement largué, en fait, que tu n'es plus un bon développeur, etc. Donc, faut faire très attention à ne pas tomber dans ce piège. Et puis, oui, en même temps, pas être réfractaire, comme tu dis, il faut quand même prendre en main le truc, tout ça. Donc, c'est pas évident, hein, de faire le juste milieu entre
Non,
les
c'est très difficile, c'est très difficile.
deux. Ouais.
Très, 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 très difficile.
Yes. Il parle aussi donc la prompt spirale. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est
Qu'est-ce que
le
c'est?
one more prompt.
Ok.
Bah, c'est-à-dire, en fait, il dit, t'enchaînes les prompts pour attendre un résultat parfait. Et il dit, au bout de 45 minutes, se dire qu'on aurait pu le faire en 20 minutes. C'est-à-dire, en gros, au bout de 45 minutes, tu promptes, t'arrives jamais à avoir un résultat qui te convient. Et tu te dis, putain, en fait, ce truc, j'aurais pu le coder en 20 minutes.
Putain, j'aurais pu le
Alors que lui,
faire à
c'est
la
une prompt
main, ça
spirale.
aurait été mieux, quoi.
Voilà.
C'est vrai.
Donc, il dit, attention à la prompt spirale. Ça, c'est intéressant aussi.
Mais bien sûr.
Et puis, surtout, le dernier truc, c'est le perfectionnisme. Donc, en fait, il dit on est un peu perfectionniste, les codeurs, tout ça. Le problème, c'est que l'IA sort du code plutôt bon, mais jamais parfait. Donc, en fait, il dit il faut accepter et lâcher prise sur le fait que l'IA produise voilà, du code moyen, mais pas forcément parfait, etc. Et partir du principe que le code, c'est une ébauche qui doit être améliorée. Voilà. Jamais partir du principe que, voilà, faut pas attendre du code parfait, en fait.
Mais moi j'y vois une opportunité de mettre ta patte, c'est-à-dire au lieu de passer 80% de ton temps à faire du code en dur, bah c'est l'IA qui va faire le code à 80% et toi tu vas mettre la petite touche, ta patte. En fait, c'est l'IA qui va faire le gros œuvre et toi tu viens mettre ta finition, ton amélioration, tout. Donc
C'est ça.
justement, notre plus-value, elle est là, mais on va quand même gagner du temps à 80% sur la feature, parce qu'elle l'a fait beaucoup plus vite que nous. Par contre, sur le final cut, quoi, le petit glaçage sur le gâteau, la petite touche, le petit ingrédient qui va faire que bah, ta recette, elle va exploser. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment ça, quoi. C'est j'utilise le gros œuvre avec l'IA et la fin, c'est moi qui le fais. Et là, je trouve qu'on a un bon compromis. Alors, je te dis ça aujourd'hui, on est en février 2026. Peut-être que j'aurais changé mon fusil d'épaule dans un an, dans 6 mois. Je ne sais pas. Mais en tout
Oui, c'est
cas,
possible.
aujourd'hui, c'est plutôt mon approche, quoi. Et donc, vouloir que l'IA fasse tout, tout seul, elle-même, du premier coup, moi, j'y crois pas du tout. Et justement, c'est une quête qui est impossible parce que de toute façon, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est pas possible. Aussi bien mathématiquement que sur un perfectionnisme, c'est pas possible, quoi. Et à l'inverse, parce que j'adore penser contre moi-même aussi, c'est de dire que nous, on est plus malin que l'IA. Je suis pas sûr. Tu vois?
Si. Encore, pour l'instant, si.
Je suis pas sûr comment elle est en capacité de faire beaucoup plus de choses que nous. Et pour le coup, tu vois, je pense que il y a une sorte de retour un peu à avoir un avantage à être généraliste, c'est-à-dire de ne pas être un expert partout. Par contre, d'avoir des notions transversales de plein de choses va amener une meilleure compréhension et d'utilisation de l'IA. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait de SQL et qui se remet à l'IA pour faire ses requêtes SQL, bah en fait, quel va être son sens critique? Quel va être son regard quant au résultat de l'IA? Bah, il va pas savoir parce qu'il n'a aucune notion de SQL. À l'inverse, quelqu'un qui a un minimum de connaissances en SQL, qui connaît Postgre ou MySQL, qu'importe, mais OK, tu vas utiliser un trigger, là, tu vas utiliser une fonction, tu vas utiliser un listen, voilà, tu vas aller faire un inner join, tu vas aller faire un left join. Tout ça, en fait, va nous permettre d'être plus précis et d'avoir un regard critique hyper important. Donc, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que le fait d'être généraliste, d'être un petit peu curieux, parce que ça, c'est un peu lié quand même, d'être généraliste va nous amener un véritable avantage à utiliser l'IA, contrairement à un spécialiste qui va être hyper calé dans un domaine. Et là, pour le coup, peut-être que lui, il sera meilleur que l'IA. Par contre, il ne pourra pas sortir de son silo.
Ouais, non, mais c'est clair.
Tu
Non,
vois?
mais c'est clair, ça aide sur certains. Toi, par exemple, tu peux être bon en PHP ou en JS et tu as envie de faire des choses où tu maîtrises moins. Oui, ça aide beaucoup, c'est clair. Ça, on ne peut pas le nier, hein, de toute façon. Bon, pour finir.
Yes.
Donc, lui, donc il a fait mini burn-out fin 2025. Il n'en pouvait plus. Enfin, voilà. Donc, il a mis quelques règles en place
Excellent.
que je vais citer. Donc, première, c'est la trois tentatives de prompt. En fait, il va faire trois prompts. Et si il n'arrive pas à avoir mieux que 70% exploitable de ce qui est sorti, il le fait lui-même, il le code.
Il
Voilà,
arrête
maintenant
quoi?
c'est.
Stop. OK.
Il arrête, je code, c'est fini, je ne perds pas de temps. Ensuite, il a mis, par exemple, le matin, il va faire plutôt de la réflexion, donc sans IA, il va réfléchir, machin, à ce qu'il va faire, etc. Et l'après-midi, il va faire conception avec IA ou sans, mais voilà, il va plutôt réfléchir. Il va garder cette. En fait, ce qu'il explique dans l'article un peu plus haut, c'est qu'à un moment donné, en fait, il déléguait tellement à l'IA qu'il n'arrivait plus à réfléchir. Et à un moment donné, il s'est retrouvé en réunion avec un tableau blanc, il devait expliquer un truc. Et en fait, il savait le concept, mais il n'arrivait plus à le sortir, etc. À
Il est
force de
devenu
déléguer, en
mou
fait,
du
ça arrive.
cerveau ou quoi?
C'est un peu ça, ouais. Donc, il a voilà, décidé que le matin, ça sera réflexion, etc., sans IA, pour reprendre ses facultés cognitives, en gros.
Bien sûr.
Ensuite, il consigne, en fait, les situations où l'IA, elle est utile et celles où il n'est pas. Par exemple, de code répétitif, tout ça, les tests, etc. Par contre, tout ce qui est décision d'architecture, bah, il le garde pour lui, sans IA, etc. C'est lui qui garde cette main là-dessus. Voilà, savoir où ça marche et des endroits où ça marche pas. Comme ça, voilà, au lieu de toujours l'utiliser, bah, tu l'utilises quand c'est les bonnes, quand elle est très très efficace, quoi.
Ah ouais, donc en fait, lui, il fait une sorte de benchmark à chaque fois où il utilise l'IA. Ok, l'IA est plutôt bonne pour ça, je garde l'IA.
Ouais.
L'IA est trop mauvaise, ça, je le garde moi-même, quoi. Et c'est-à-dire qu'il
Ouais, c'est
définit
ça.
quelles sont les tâches qu'il peut déléguer des celles qu'il doit garder à tout prix, quoi. Ouais, ça c'est très très malin, hein, pour d'avoir une
Ouais.
limite très claire sur qu'est-ce qui me revient et qu'est-ce qui revient aux agents, quoi. Ouais, top.
Ouais. Ensuite, bah, ce qu'on avait dit avec le FOMO, cesser d'adopter chaque nouvel outil qui sort. Voilà, attendre un peu, etc. Arrêter de se jeter sur le moindre truc qui sort.
Bien
Et la
sûr.
dernière, qui est ultra dure, je pense pour tout le monde, c'est ne pas examiner tout ce que l'IA produit. Et ça, c'est dur. Voilà.
Ouais.
Donc,
Après,
voilà.
ça s'appelle
Accepter.
du YOLO vibing, on pourrait dire. Mais
Ouais, c'est un peu dur.
c'est du YOLO, genre, allez, ouais, c'est bon, ça passe. Je regarde le résultat escompté est bon. Allez, pff, je valide. Waouh, peut-être
Ça
des
dépend,
micro-fonctions, ouais, mais là j'avoue, c'est super dur, super dur.
Ouais. C'est ce qu'il dit. Il dit c'est vraiment très très difficile quand t'es développeur de pas relire le code, quoi.
Ah ouais. Ah ouais, mais ça prend du
Voilà.
temps en même temps.
Donc voilà, super intéressant ce retour d'expérience. Il y a pas mal. Enfin, là j'ai résumé, mais voilà, faut le lire parce qu'il est vraiment intéressant tout ce qu'il raconte.
Yes. Et on arrive sur un épisode de Underscore qui, le titre en dit beaucoup. Est-ce que l'IA va nous rendre totalement idiots?
Ouais, épisode super intéressant il dure 30 minutes, je crois,
37, ouais.
où il parle notamment de l'éducation, tout ça, du fait que maintenant, bah, la plupart des jeunes, quand ils ont un devoir à l'école, ils utilisent ChatGPT et compagnie, donc comment mettre en place des choses. Ce qu'ils sont en train de voir au niveau de l'éducation, c'est utiliser l'IA pour l'apprentissage au lieu de juste faire les devoirs. Voilà. Enfin, bref. Et surtout, ils parlent dans l'épisode en fait d'une expérience en interne chez Underscore où ils ont un développeur junior qui avait commencé à coder un site. Hein, je sais plus un truc avec l'IA. Donc, il maîtrisait pas la techno. Je crois que c'était Linux en plus. C'est marrant. Il maîtrisait pas trop la techno, donc il utilise l'IA, il commence à coder avec Cursor, machin, ça avance et tout. Puis à un moment donné, il se retrouve bloqué, le truc marchait pas, etc. Et impossible de débugger, en fait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas acquis les compétences pour pouvoir débugger et trouver le problème, pourquoi ça marchait pas, etc. Et là, ils se sont rendu compte qu'il y avait vraiment un problème et que le code était vraiment plat de spaghettis dans tous les sens, etc. Donc, ils ont arrêté tout le truc. enfin voilà, faut écouter dans l'épisode, mais ils ont arrêté le truc, ils ont repris de zéro, et le gars, en fait, ce qu'il a fait, bah, il a commencé à lire la doc, etc., à comprendre. En même temps, il utilisait l'IA, mais en même temps, il essayait de comprendre pourquoi, machin, comment ça se met en place, etc., et il a avancé progressivement comme ça, et ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, puisque là, on parle vraiment d'un développeur junior qui devait faire un projet concret. Donc c'est super intéressant à écouter, c'est un bon épisode, quoi.
Voodoo coding où tu rentres et tu ne sais pas, enfin on l'a déjà dit hein, tout à l'heure, mais c'est un super prof, explique-moi, donne-moi la référence de la doc, donne-moi pourquoi tu as utilisé ça, on peut discuter, échanger, et c'est un super assistant au sommet de ma toute petite expérience voilà, sur le dernier gros projet. Je voulais faire, parce que je trouvais ça intéressant, de faire un maximum de choses directement depuis la base de données. Et donc, en fait, je suis monté en compétence sur Postgre avec des triggers, avec des fonctions. Et en fait, je lui posais des questions. Je lui disais, OK, moi, je voudrais que quand j'ai une mise à jour d'une commande, ça passe dans cette fonction et cette fonction, en fait, va changer, va réattribuer le statut de la commande selon des règles que je vais établir. Et en fait, il l'écrit, mais tellement facilement. Et là, je fais, non, mais explique-moi. Et bam, et explique-moi. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris le mécanisme, j'ai compris comment ça fonctionne, et c'est super puissant. Mais c'est vraiment, on peut utiliser l'IA comme un super teacher, un super mentor. Ouais. Et je pense qu'on le sous-estime trop souvent. On veut trop être dans la culture du résultat. Et je pense que tous les articles qu'on a vus, en fait, le montrent et poussent vraiment à ça. On est dans cette culture du résultat et je pense qu'il faut qu'on capitalise au maximum sur ces connaissances-là pour nous monter en compétences et qu'on garde le lead ultime, en fait, sans pour autant, en fait, se perdre dans des choses qu'on ne comprenne pas pour des gains de temps qui sont à court terme, en fait, bénéfiques, parce qu'on va shipper plus vite, mais à moyen et à long terme, un, on devient un mou du cerveau, deux, on est fatigué, et trois, le client ou la société ou la compétence globale de notre outil, en fait, se délamine au fur et à mesure, et c'est une bombe à retardement, parce que dans 10 ans, quand le senior sera parti, il n'y aura que vous qui ont fait du YOLO avec l'IA, qui sera là, et on n'aura aucune idée, en fait, de comment ça marche, pourquoi on a fait ce choix-là. Et je pense que c'est très, 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 très dangereux. Ouais.
Voilà, c'est le mot de la fin.
Yes. petit épisode un peu différent où on essaye de faire un pas de côté, en tout cas sur l'IA, où la pratique évolue, la pratique change, mais en tout cas, un épisode où on voulait justement prendre un petit peu de ce recul-là. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt friand de ce type d'épisode-là, où justement, on prend le temps de décortiquer et comment notre métier, en fait, change et évolue, et comment l'impact de l'IA va changer notre métier. Dans tous les cas, un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Merci. Comme d'hab, un petit commentaire, un petit pouce, et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.